Et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Henri de Menton sur le plateau. Bonjour Pierre-Henri.
Bonjour.
Directeur de la rédaction de Challenge, à vos côtés Gaël Slimane. Bonjour.
Bonjour Gaël, Raphaël.
Président d'Odoxa. Et puis Christian Saint-Etienne. Bonjour,
bonjour.
Christian. Économiste, auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe aux éditions Odile Jacob. Alors on va commencer Gaël, tout de suite avec vous. On est le premier jeudi du mois et comme tous les premiers jeudis du mois, vous avez sondé pour Challenge, pour BFM Business avec AJP, le moral des Français. Alors on imagine qu'en pleine crise, évidemment, le moral n'est pas au meilleur.
Le moral est très mauvais. Vous avez raison de rappeler le contexte. On est en pleine crise avec cette guerre au Moyen-Orient, cette guerre en Iran. Mais pour les curieux qui ont regardé sur notre site internet ou sur celui de Challenge, la courbe de notre indice de morale économique, puisqu'on suit ça tous les mois, on fait un indice un petit peu à la manière de l'INSEE, on verra que en réalité, le moral, il est très bas depuis très longtemps et il est même scotché au plus bas depuis quasiment 2 ans, depuis la dissolution. Oui, c'est... Les Français estiment qu'on n'a plus aucune manette pour gouverner le pays, qu'il n'y a plus aucune politique possible et donc le moral est très très bas. Et oui, effectivement, ça s'est encore aggravé ces derniers mois avec la guerre en Iran et avec ses conséquences. Et donc on est sur des indices qui sont stratosphériquement négatifs et il y a un élément qui est important, c'est les conséquences de cette situation économique, de cette guerre au Moyen-Orient, sur l'énergie, les prix de l'énergie, sa disponibilité. Et c'est ce qu'on a souhaité investiguer avec Challenge ce mois-ci, en creusant cette question en particulier, parce que c'est un des facteurs d'explication de ce moral encore plus bas que d'habitude.
Alors là, les résultats sont spectaculaires en termes de
retournement de tendance.
De tendance sur les questions environnementales. Ouais.
Oui, mais comme les Français, comme dirait Emmanuel Macron, sont peut-être des Gaulois réfractaires, mais avec une pensée complexe. En réalité, c'est juste une demande de pause parce que on est en pleine situation de dérive des prix, les prix au carburant, enfin les prix à la pompe flambent, sans mauvais jeu de mots. Et donc, on a une question qu'on pose de manière récurrente. Vous l'avez dit, c'est un peu l'arbitrage entre fin du mois et fin du monde, à savoir est-ce que on doit poursuivre les politiques environnementales de lutte contre le réchauffement climatique, d'investissement dans ce domaine, no matter what, peu importe les conséquences sur que par ailleurs il y a une crise économique, que ce soit compliqué pour le pouvoir d'achat des Français, ou bien est-ce qu'on doit suspendre ces politiques pendant un temps et mettre l'accent sur le pouvoir d'achat et les aspects...
C'est plutôt ce qu'ils nous disent là.
Et aujourd'hui, 6 Français sur 10 nous disent non stop, pitié, pause. Là, on met en pause ces politiques environnementales et on fait en sorte qu'on ne soit plus étranglé par notamment les prix à la pompe et la hausse des prix de l'énergie.
C'était l'inverse depuis 5 ans.
Voilà,
hein, c'est un
renversement. On était à 60-40, un peu plus même, il y a 5 ans. Et ça s'est retourné aujourd'hui. Et puis, on l'a décliné, mais je ne vais pas faire de tunnel sur les différentes sources d'énergie. Le regard des Français a pas mal changé aussi.
Oui, on va revenir notamment sur le nucléaire. Moi, j'étais surpris que depuis 5 ans, en réalité, 60% des Français demandent de donner la priorité aux questions environnementales. La crise inflationniste, Pierre-Henri de Menton, on la connaît quand même depuis notamment la guerre en Ukraine, bien d'ailleurs de manière bien plus violente que l'inflation qu'on peut connaître aujourd'hui. Comment vous lisez ces résultats-là ?
Alors, il y a effectivement une demande de pause. Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est vous venez de le mentionner, c'est le nucléaire. Il y a eu un retournement qui est aussi... ça ne date pas de ce sondage-là, mais... il n'y a pas si longtemps, on fermait la centrale de Fessenheim.
Bien sûr.
Aujourd'hui, il y a un retournement presque excessif. Donc pour le nucléaire, le tout nucléaire. Alors effectivement, le prix de l'électricité n'a jamais été aussi bas. On est en surproduction. Le prix de l'électricité est même négatif sur les marchés. Mais il y a une loi qui s'appelle très techno, qui s'appelle la PPE.
La programmation pluriannuelle de l'énergie.
On maintient, et c'est du bon sens, une forme de mix énergétique. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être basculé sur une seule énergie. Et ça, l'opinion publique est en train de tellement basculer pour le nucléaire que c'est de moins en moins admis. Et j'ai peur que ça soit un sujet dans la campagne présidentielle où effectivement... on va avoir l'énergie va quand même être un des thèmes de la campagne.
Ben oui.
Avec une chose qui est intéressante dans le sondage quand même, c'est que les Français sont quand même divisés sur ces sujets. Oui. Vous prenez les femmes, elles sont beaucoup plus pour les renouvelables que les hommes. vous prenez les jeunes, c'est pareil. Donc il y a des vraies divergences à l'intérieur de l'opinion sur ces sujets.
Il y a aussi des divergences, Gaël,
entre ville et campagne. Mais le résultat auquel Pierre-Henri fait allusion, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure quand je disais que les Français sont un peuple complexe. Là, ils demandent une pause parce qu'ils sont étranglés. Mais globalement, quand ils se projettent sur le temps long, ils ont beau adorer le nucléaire, ils nous disent quand même à 53% contre 46% qu'à l'avenir, il vaut mieux privilégier les sources d'énergie renouvelables plutôt que le nucléaire.
Oui, ils ne deviennent pas climato-sceptiques non plus,
les Français. Ils ne sont pas du tout climato-sceptiques. Ils sont très attentifs aux questions environnementales. C'est juste là, en ce moment, légère pause, please. Et effectivement, Pierre-Henri le disait, la société est un peu divisée sur ces sujets. Les femmes, les jeunes, les villes, les campagnes n'ont pas les mêmes perceptions.
Et oui, une société fragmentée. Christian Saint-Etienne, est-ce que le moral des Français, je voulais qu'on revienne, on ira sur l'environnement après, mais sur le moral des Français, qui évidemment est au plus bas, et on a vu en avril le moral des ménages et la consommation qui était vraiment très mauvais du fait de la crise, est-ce qu'il n'est pas indexé sur l'inflation très directement ? D'abord et avant tout.
Enfin, je pense que la clé principale, c'est celle qui a été mentionnée par Gaël, c'est-à-dire la dissolution. Je pense que les Français, en fait, sont très lucides. Voilà, ils sont plus lucides que pessimistes. Ils se rendent bien compte qu'effectivement, plus personne ne gouverne. On a bien vu les deux automnes pour faire passer des lois de finances qui étaient... Tout le monde savait que ça répondait pas aux grands défis du pays. Donc, les Français ont vu tout ça et ils sont inquiets sur le moyen terme. Alors, sur l'aspect de basculement sur le nucléaire, alors, moi, je vais prendre un autre angle, indépendamment de ce que pensent les Français. Moi, je suis pro-nucléaire, oui. Mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que, en fait, étrangement, Hollande avait sorti de son chapeau l'idée qu'il ne fallait pas plus de 50% de nucléaire. Mais moi, dans une analyse stratégique que je fais depuis pas mal de temps, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir beaucoup plus que 50% de nucléaire. Pourquoi ? Ce n'est pas nécessairement pour faire que du renouvelable, mais on a besoin du nucléaire comme système de base. On l'a vu en Espagne, s'ils se sont plantés, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer leur système de renouvelable. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que si le système a redémarré, c'est que c'est les Français qui ont envoyé du nucléaire. On ne le dit pas, hein, parce que si les Français n'avaient pas envoyé du nucléaire, l'Espagne aurait peut-être été bloquée plusieurs semaines. Donc on a vraiment besoin d'une énergie de base. Mais il ne faut pas avoir trop de nucléaire non plus. Alors,
pourquoi ?
Ça va vous sembler très loin, mais c'est pour des raisons militaires et stratégiques. C'est-à-dire que je pense que ce sont, dans les guerres futures, qui semblaient improbables jusqu'ici...
Oui.
Des cibles potentielles idéales quand vous voulez frapper un pays. Donc, je pense que 50% de nucléaire, c'est un maximum.
Ce que vous nous dites, c'est que c'est une forme d'affaiblissement d'avoir trop de réacteurs nucléaires.
Ça peut être une forme de faiblesse dans une guerre future. Donc, ça semble très très loin, mais c'est mon raisonnement. Donc,
on a 54 réacteurs aujourd'hui, ou 56, je ne sais plus, voilà. Qu'on en ait 56 ou 60, 70.
Voilà, mais pas tout nucléaire pour cette raison.
Ça change grand-chose.
Alors, sur le basculement des Français, là aussi j'aurais une autre analyse. Effectivement, il y a 6-7 ans, en gros, en 2019, c'est le moment où on passe le Green Deal au niveau européen.
Oui.
C'est le moment où l'idée verte par la décroissance est à son maximum d'influence en Europe et en France. Alors, on a vu déjà depuis 3 ans le début du détricotage du Green Deal qui s'accélère depuis les dernières élections européennes. Mais ce que je pense, les Français n'ont peut-être pas les modèles en tête pour le dire de cette façon-là, mais ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était une lutte contre les émissions de gaz à effet de serre par la réglementation. Et ce que les Français sont en train de dire, c'est qu'ils préféreraient qu'on le fasse par de la croissance verte, c'est-à-dire en remettant de l'industrie qui fonctionne à l'électricité. Si on a un excès de l'électricité, c'est d'ailleurs parce qu'on a tellement désindustrialisé qu'il n'y a pas la demande.
Bien sûr.
Donc, je pense que même s'ils ne l'expriment pas de cette façon, les Français ne tournent pas contre le climat. D'ailleurs, ils achètent de plus en plus de voitures électriques.
Oui.
Mais je pense qu'ils demandent à nouveau de la croissance, mais une croissance verte, propre et écologique.
C'est très intéressant. C'était le propos de mon éditorial ce matin. dans la matinale de Good Morning Business. Est-ce qu'on n'est pas en train de sortir la lutte contre le réchauffement climatique des mains des politiques qui, en termes de planification, ont plutôt échoué, puisqu'on détricote ce qu'on a fait avant sans véritablement avancer, on a fermé Fessenheim, on revient sur le nucléaire, pour le mettre dans les mains du marché? Est-ce que la crise du Moyen-Orient n'est pas finalement l'équivalent d'une taxe carbone que les politiques n'ont pas réussi à mettre en place en 2018, puisqu'on voit une baisse de 11%, Pierre-Henri de Menton, de la consommation des carburants au mois d'avril, et une augmentation de 48% des ventes de véhicules électriques neufs depuis le début de l'année, plus 69% au mois de mars. Cette crise n'est-elle pas une opportunité majeure pour avancer dans la lutte contre le réchauffement climatique par les prix de marché, par l'effet prix, pas par des décisions
sur politiques. Sur les prix de marché, juste un point, c'est qu'il y a un marché du carbone qui existe, hein, il a été mis au point par l'Europe. Et juste pour signaler, donc ça c'est le rêve, hein, c'est-à-dire que c'est tous les grands économistes, notamment Jean Tirole, ont poussé à l'établissement de ce prix de marché. Donc on paye, vous savez, un malus quand on pollue, des droits à polluer, etc. Et ben ce marché, il est en train de, il marche plus en fait. C'est un gros problème, notamment en raison du, enfin c'est un peu technique. Le gouvernement allemand a mis des bâtons dans les roues, tout ce qu'il pouvait, pour défendre son industrie.
Et puis des niveaux de prix, on a une taxe carbone de 46 voilà. euros, me semble-t-il, donc, par tonne en
donc
France.
Donc ce rêve du marché qui régule, il est très très difficile à mettre. Après, les Français, ils votent effectivement à la pompe, etc. Et il y a un décalage incroyable, là encore, excusez-moi Christian, entre les économistes et la réalité des choses. Parce que là, j'ai vu le cercle des économistes a nommé son meilleur jeune économiste de l'année il y a quelques semaines, qui est un type très très brillant, qui travaille sur un campus américain, et qui était allé à la radio en disant effectivement c'est une chance formidable, et il faudrait même un litre à 4 euros pour résoudre les problèmes
absolument.
De la planète. Donc c'est pour moi un échafaudage un peu intellectuel et théorique.
Faut pas qu'il aille, l'économiste en question, dire ça sur les chaînes américaines, parce que ça ferait un gallon d'essence à 16 dollars. Et à ce moment-là, je pense qu'il sort pas vivant du studio d'une télé américaine.
Le prix de l'essence, justement, c'est le sujet d'une publication par Bercy hier sur les marges. On a beaucoup parlé des marges des distributeurs ces dernières semaines, évidemment ces derniers mois. Les stations-service s'en sont-elles mis plein les poches finalement, Christian Saint-Etienne?
Apparemment, d'après l'étude gouvernementale, ce n'est pas le cas, d'autant plus que paradoxalement, par un effet de boomerang étrange de la politique, le fait que Total ait plafonné ses prix, et ça a eu un impact sur les prix des autres. Donc, mais apparemment, les marges n'ont pas progressé. Alors, il faut quand même se méfier. Je ne veux pas dire de sottises. Pierre, peut-être tu l'as à l'esprit. C'est 60% d'indépendants dans la distribution de à la pompe. Or, ce sont des indépendants qui ont des marges qui leur permettent à peine de rembourser l'achat de la pompe, l'achat du pétrole, ainsi de suite. On a dû déjà, sur les 30 dernières années, diviser par deux le nombre de stations-service. Oui. Donc, si on les étrangle
et que les stations-service disparaissent,
après les Français vont hurler pour qu'on réouvre des stations-service. Donc, si on veut que les indépendants survivent, il faut
bien qu'il y ait
des marges. Mais apparemment, en plus, ils les ont pas augmentées.
Mais ce qu'on voit, c'est que ces marges, elles ont un peu baissé en réalité.
Voilà,
par
rapport à la crise, Pierre-Henri de Menton. Parce que si elles baissent, c'est parce qu'il y a eu l'opération Total Energy. Hein, c'est Total a permis de faire baisser et c'est d'ailleurs très intéressant du point de vue de la théorie économique, parce que voilà un acteur 100% privé qui mène une politique publique. Et il le présente d'ailleurs, le patron de Total le présente comme une alternative à la taxe, donc à une décision.
Si vous me taxez, j'arrête de plafonner les prix. Hein, voilà. C'est ce qu'a prévenu Patrick Pouyanné.
Il faut juste rappeler, parce qu'on le sait ici, mais que Total fait 90% de ses bénéfices hors de France et que c'est grâce aux bénéfices hors de France qu'il peut plafonner en France.
Les Français, ils pensent quoi? Qui profite de la crise? Qui sont les profiteurs de crise pour
Alors, les Français, ils pensent surtout qu'ils ne supportent pas de voir défiler leur argent à la pompe. C'est parce que quand on y réfléchit, ça pèse pas si lourd que ça dans le pouvoir d'achat des gens.
De plus en plus, là, hein,
alors,
pour le coup.
Oui, mais c'est pas le sujet qui pèse.
Il y a 6 millions de rouleurs, c'est ça.
C'est la vision. C'est une des rares fois où vous voyez votre argent comme si vous le brûliez, comme si on vous le brûlait sous les yeux.
C'est une question de présentation,
et donc,
en fait.
Quand vous voyez les prix à la pompe, surtout qu'il y a des prix ronds, donc 2 euros, 2,20 euros, c'est pas la même chose. Donc ça crée des effets. Donc les Français, un, ils ne supportent pas de voir les prix de l'essence flamber. Quand ça arrive, parce que c'est un facteur exogène, bah, ils vont pas se mettre dans la rue et se transformer en gilets jaunes. Même si les prix à la pompe au moment des gilets jaunes étaient plus bas qu'ils ne le sont aujourd'hui, oui, ou qu'ils ne l'étaient au plus haut de ces dernières semaines.
Sensiblement.
Mais ils sont très sensibles au fait que les hommes politiques les surtaxent.
Voilà.
Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément sur le rapport des Français à tout cela, c'est qu'on l'avait sondé dans un précédent baromètre, ils ne comprennent pas pourquoi, enfin ils ne comprennent pas, ils auraient voulu, parce que je pense qu'ils le comprennent, ils auraient voulu qu'on fasse ce que l'Espagne a fait.
Oui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de cibler telle ou telle catégorie que par ailleurs ils jugeaient légitime de devoir protéger, eh bien les pêcheurs, vous savez, les agriculteurs, eh bien que l'État aille encore plus loin et faire ce qu'a fait le gouvernement espagnol, c'est-à-dire dise, moi je ne m'engraisserai pas sur votre dos et je baisserai les taxes et notamment la TVA sur l'essence. Sauf que c'est une mesure dont nous n'avons plus les moyens de prendre aujourd'hui.
L'Espagne est moins endettée que nous.
On attend quand même, il devrait y avoir des annonces en début de
semaine. Oui, le Premier ministre a annoncé qu'il fallait changer d'ampleur. A-t-il raison et a-t-on les moyens de le faire?
Il y a une étude publiée par le FMI hier, donc qui calcule l'effort en matière de finances publiques qui a été fait là depuis quelques semaines pour contrer les effets inflationnistes de la crise. La moyenne en Europe, c'est 0,2% du PIB, ce qui est quand même important, avec effectivement des champions qui sont l'Espagne, la Grèce, entre parenthèses, hein, c'est des pays qui étaient au bord de la faillite il y a quelques années.
Ouais.
Et donc c'est 0,2, et la France, elle est à 0,02. Hein,
donc on fait 10 fois moins que la moyenne européenne.
Donc il n'y a sans doute pas beaucoup de marge de manœuvre, il y en a quand même sans doute un tout petit peu. Mais effectivement, il n'y a pas eu, puisque on a encore une fois un acteur privé qui a fait le job, mais il y a des effets induits.
L'État a fait une délégation de services publics avec Total, là.
Mais il y a des effets induits.
D'autant plus que l'État est actionnaire de Total à hauteur de 1,3%, si je ne dis pas de bêtises, et donc devrait toucher quelques centaines de millions d'euros de dividendes de la part de Total, dû aux meilleurs résultats qui peut-être pourraient
servir. Après, il y a un effet volume. Hein, S'ils perdent vraiment de l'argent avec cette histoire totale. Et l'autre chose, si vous voulez, c'est qu'il y a des effets induits très directs. Par exemple, vous regardez ce qu'ont fait beaucoup de Français, les prix des TGV actuellement. Les capacités étant...
SNCF en profite.
Ils ont des taux de remplissage à 110%. Le vrai profiteur de la crise, c'est peut-être
la SNCF.
Il faudrait peut-être les taxer.
On va en parler à Jean Castex.
J'aime bien cette notion de DSP qui n'est pas une délégation de service public, mais au fond une délégation de service politique.
Oui, c'est un peu ça. Il a raison, Patrick Pouyanné, de sortir là sur soit c'est la taxe, soit c'est le plafonnement, mais je ne peux pas faire les deux.
L'élément central, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est que les profits de Total, ils se font hors de France. On devrait se féliciter d'avoir un acteur massif comme Total, qui est très admiré par les Américains. Les Américains rêvent de mettre la main sur Total. Total a mis une double cotation aux États-Unis. Grands investisseurs américains, je crois, sont déjà à plus de 40% de l'actionnariat de Total. On devrait se féliciter plutôt que de cogner en permanence sur l'entreprise. Je précise que je connais personne chez Total. Je réfléchis juste sur le plan stratégique. La question, c'est au-delà de ça, est-ce que on a eu une politique cohérente? Parce qu'on rappelle toujours, on le dit sans arrêt. On est plus intelligent sur BFM Business, mais quand vous écoutez l'ensemble des radios, c'est toujours la crise du Moyen-Orient, non? Non, c'est que la France a fermé 4 grandes raffineries sur les 15 dernières années.
Et bien le rappeler, oui.
Que l'Europe a fermé des tas de raffineries parce que on pensait que c'était moins cher d'importer directement de l'essence du Moyen-Orient, du kérosène pour les avions du Moyen-Orient, de l'aluminium du Moyen-Orient. On est passé pas loin, il y a quelques années, de fermer carrément Dunkerque, qui est la grande dernière production d'aluminium en Europe. Au lieu de doubler Dunkerque, on s'est dit on va aller le chercher là-bas. Eh bien, on réapprend ce qu'on avait déjà. Alors, c'est ça qui m'inquiète et que je trouve désolant. C'est que il faut chaque fois une baffe pour qu'on se disent, il y a un problème.
Oui.
Donc quand on n'a pas eu de masques et de produits en 2020, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, derrière, plus rien, hein, puisqu'on avait dit, on va payer plus cher les médicaments produits en Europe. Mais même Macron avait fait une commission sur ce point qui avait dit, oui, on peut payer un peu plus cher les médicaments produits en Europe. Je crois que les Allemands ont commencé à le faire. Ici, c'est pas possible. Rien n'est possible en France. Donc, moi, j'appelle à un retour de la réflexion stratégique, quoi. C'est-à-dire, parce que des baffes comme le Covid et comme ce qui se passe au Moyen-Orient, il va y en avoir des tonnes dans les années qui viennent. Est-ce qu'on va attendre à chaque fois la nouvelle baffe pour essayer de bouger un peu?
Oui, puisque vous dites sur le raffinage du carburant, c'est la même chose sur les terres rares.
Exactement.
On a exactement le même problème.
On avait la moitié de la production européenne en France il y a 30 ans aussi, là, Ron Poulenc qui était actionnaire, pour pouvoir privatiser et quelques patrons pour s'en foutre plein les poches. Voilà, non, ça, c'est complètement délirant, quoi. On a un État tatillon et impuissant. Moi, j'appelle en retour un État stratège qui travaille avec les filières. Alors,
faut,
et qui réfléchisse.
Faut pas trop quand même se jeter de la cendre. Hein. Il y a pire ailleurs. Hein. On parlait de l'Allemagne. Bon, le modèle allemand, ça a été quand même mis sous dépendance complète du gaz russe.
Ah non, non, mais,
les
non,
exportations
mais nous, on pourrait faire mieux.
Que des achats de la Chine. Donc, on a vu ce que ça a donné. Et là, on a un chancelier qui est au plus bas dans les sondages, oui. Hein, comme d'ailleurs le Premier ministre britannique, oui. Qui, à mon avis, ne va pas tenir très longtemps.
Très compliqué.
Donc, ce moral en berne, cette défiance, etc., elle n'est pas non. Alors, c'est un sport national en France, hein, ça, on est
non, mais c'est,
quelque
non,
part
c'est,
entre clair, l'Afghanistan.
Ce que je disais, c'est qu'on pourrait faire tellement mieux.
Oui, oui, mais voilà, on a aussi, regardons un tout petit peu ce qui se passe à l'extérieur, et on parlait des Américains et de Total Energy, l'essentiel du gaz qu'on apporte, du fameux GNL qu'on apporte aux États-Unis, il est produit par Total Energy, hein, aux États-Unis, qui est le premier producteur, le premier exportateur américain. Donc, voilà, on est quand même assez agile, on
l'essentiel
sait faire des choses.
L'essentiel du GNL que l'on importe,
absolument.
C'est Total qui le produit
absolument.
Aux États-Unis.
Hein, c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, les Américains s'intéressent beaucoup à Total, c'est qu'ils ont investi massivement dans le gaz aux États-Unis. Donc, ils avaient fait la même chose au Qatar et donc, effectivement, ces fameux profits délirants de Total Energy,
ça sert aussi à ça.
Ils proviennent aussi du fait que le gaz, il coûte pas cher du tout à produire aux États-Unis et il coûte très cher à acheter aux Européens, hein, parce que c'est pas un marché mondialisé comme celui du pétrole.
Ils le perçoivent, ça, en un mot.
Alors, Total a réussi un très joli coup de communication.
Oui.
Je ne sais pas où ils en sont sur les marges, s'ils ont dû faire des sacrifices, mais vous l'avez rappelé l'un et l'autre.
Je crois qu'ils ont engrangé quelques centaines de milliers de contrats électriques grâce à ça, car vous avez une ristourne supplémentaire si vous prenez un contrat électrique.
Donc,
chez
en termes d'image, c'est bien, mais c'est surtout que Total a un vrai sujet stratégique sur... Évitons les baffes, pour reprendre les termes de Christian, parce qu'à chaque fois qu'ils annoncent des super profits, derrière il y a une polémique politique qui s'enchaîne avec des demandes de certains partis politiques de taxer et surtaxer encore les super profits de Total. Donc là, ils achètent à bas prix malgré tout, et peut-être même ça ne leur coûte pas si cher ou ça leur a rapporté cette opération, mais ils achètent à bas prix. Quelques points d'image dans l'opinion, sachant que ce que dit Patrick Pouyanné peut s'entendre pour les Français. C'est-à-dire, on veut bien une baffe, mais pas deux.
Oui.
On veut bien...
C'est pas ceinture et bretelle.
Ouais, on veut bien la taxe, mais à ce moment-là, on fait pas le blocage des prix. Ou alors on bloque les prix.
On ne retend pas la
joue chez Total. Mais dans ce cas-là, pas de taxe. Donc c'est plutôt habile en termes de communication.
Mais c'est habile, c'est-à-dire qu'il est Patrick Pouyanné devient champion du pouvoir d'achat et prend la place de Michel-Édouard Leclerc.
Un petit peu, c'est un peu l'idée.
Quel retournement. Qui l'eût cru. Allez, on va se quitter pour une très courte pause. On va se retrouver dans une minute. On va parler, on va continuer dans les clashs et dans les baffes. Cette fois-ci, c'est entre Matignon et le MEDEF. C'est à coup de courrier qui circule dans la presse. À Matignon, on estime que le patronat est hors sol. Rien que ça, on va voir pourquoi. Et puis, on reviendra sur l'emploi des jeunes. 5 ministres annoncent un plan aujourd'hui pour renforcer le taux d'emploi des jeunes. On va voir ce qu'en pensent les experts. À tout de suite.